Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rare à l'écoute, la nouvelle chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer la cystinose et pour nous accompagner, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Aurélia Berthollet-Thomas. Docteur Berthollet-Thomas, bonjour.
Bonjour.
Docteur Berthollet-Thomas, vous êtes pédiatre, praticien hospitalier au sein du centre de référence des maladies rénales rares Néphrogone de Lyon, membre de la filière Orchide, et vous avez également coordonné la rédaction du PNDS, le protocole national de diagnostic et de soins, sur la cystinose, réalisé sous l'égide de la filière Orchide. Alors, docteur Berthollet-Thomas, ma première question s'adresse évidemment au pédiatre. Quelles sont les circonstances typiques de découverte d'une cystinose chez l'enfant ?
Alors, les circonstances typiques sont au nombre de 3-4. En premier lieu, il y a vraiment un retard saturopondéral. C'est vraiment en fait ce signe-là qui va vraiment orienter vers la découverte d'une pathologie rénale, d'une tubulopathie, voire d'une cystinose. Donc, c'est vraiment un retard saturopondéral qui va apparaître à peu près à l'âge de 6 mois chez un enfant qui est né eutrophe, c'est-à-dire avec un poids et une taille strictement normale à la naissance. Et donc, ce signe qui est finalement non spécifique peut conduire à un retard diagnostique, puisque les causes rénales de cassures saturopondérales sont souvent sous-estimées, méconnues, et finalement, on oriente en fait ces enfants de façon trop tardive vers un néphropédiatre. L'autre situation, qui est une situation aiguë, qui peut entraîner des complications donc plus aiguës, qui sont en fait la découverte des troubles hydroélectrolytiques, c'est-à-dire ce sont des enfants qui ont une tubulopathie proximale avec des pertes en eau et en ions qui sont vraiment importantes, et au premier plan, c'est l'hypokaliémie, qui va être majorée en cas de perte extra-rénale, comme des pertes digestives dans le cadre d'une gastro-entérite. Il peut y avoir, dans des rares cas, des dépistages en fait quand il y a déjà un enfant qui est atteint de cystinose dans la famille, et donc là c'est toute la sphère en fait du conseil génétique, et puis de façon plus rare des dépistages en fait qui vont se faire sur une atteinte visuelle plus tardive. Il y a des dépôts de cystine au niveau de la cornée qu'on peut voir de façon systématique sur la lampe à fente à partir de 1 an, et dans certains cas c'est vraiment la gêne visuelle qui peut conduire en fait au diagnostic, mais c'est vraiment beaucoup plus rare.
Alors, docteur Berthollet-Thomas, vous l'avez un petit peu évoqué, dans les maladies rares, on sait que l'errance diagnostique est parfois très longue et elle peut être préjudiciable aux patients. Ici, dans la cystinose, quels sont les signes qui doivent alerter les parents ou les médecins ? Quand penser à un problème rénal et quand penser à une cystinose ?
Alors, ce que j'ai un petit peu dit tout à l'heure, c'est qu'il y a premièrement, des signes d'alerte qui vont être finalement non spécifiques avec ce retard saturopondéral, cette cassure saturopondérale qui est en lien avec cette tubulopathie qui va induire une déshydratation chronique. Il peut y avoir un défaut et une carence en fait d'apport alimentaire parce que ces enfants ont tellement besoin de boire qu'ils vont avoir l'estomac plein en permanence, ce qu'on appelle une réplétion gastrique. Et puis les troubles ioniques, pareil, l'hypokaliémie qui va entraîner en fait une vidange gastrique plus ralentie. Donc ils apparaissent vers 6 mois et c'est vraiment extrêmement important de réaliser de façon systématique une courbe de croissance saturopondérale dans le suivi en fait de tout enfant pour justement dépister de façon le plus précocement possible l'apparition en fait de ces troubles de la croissance. Ensuite, il y a des signes cliniques qui vont orienter plus vers une pathologie rénale et en particulier des pathologies tubulaires en lien avec, encore une fois, ces pertes hydroélectrolytiques. Et donc là, c'est vraiment l'interrogatoire qui va avoir une place majeure. Il va falloir rechercher ce qu'on appelle une polyuropolydipsie avec des enfants qui vont avoir une soif excessive. Quand ils sont petits, ça peut entraîner des pleurs importants. Les parents vont décrire des couches qui débordent la nuit avec des changements une ou deux fois. Et puis, dès que l'enfant grandit, en fait, il va avoir une appétence pour l'eau très importante. C'est par exemple un enfant qui peut se mettre à boire l'eau du bain. À l'examen clinique, il va falloir rechercher les signes, ce qu'on appelle un diabète phosphaté. Il y a une perte de phosphore dans les urines qui va un peu induire un rachitisme. Et donc, il faut savoir palper les os des enfants à la recherche de nouures métaphysaires. Donc, vraiment, les messages centraux, c'est rechercher la cassure saturopondérale et quand elle est présente, savoir réaliser une bandelette urinaire systématiquement chez ces enfants, parce que c'est vraiment la bandelette urinaire qui fait partie de l'examen clinique à part entière, qui va orienter vers une maladie rénale chronique et éventuellement vers une tubulopathie. On va rechercher une densité urinaire basse, la présence d'une glycosurie, et on verra après en fait que c'est la glycémie normale, et la présence d'une protéinurie. C'est vraiment ces trois éléments-là qui vont orienter vers une pathologie rénale. Enfin, il y a des signes cliniques plus spécifiques qui vont orienter vers une cystinose avec des caractéristiques phénotypiques, et en particulier chez les enfants caucasiens, ils ont plutôt un front bombé, un phénotype clair, des cheveux blonds. Il va falloir rechercher encore une fois l'interrogatoire, une consanguinité, puisque la cystinose est une pathologie autosomique récessive. Et puis, la présence de cristaux à la lampe à fente au moment de la consultation ophtalmo. Des signes, est-ce qu'ils vont être des signes biologiques cette fois-ci, qui vont orienter en fait vers un certain nombre de deutonies de Bray-Fanconi, donc cette tubulopathie proximale, et certains peuvent être faussement étiquetés normaux, en particulier la phosphorémie. La phosphorémie, dans les laboratoires de ville, en fait, les normes sont celles des adultes. Et par exemple, si on prend un enfant de 1 an, on va avoir une phosphorémie à 1,4 millimoles par litre qui va être dans les ranges normaux du laboratoire, alors qu'en fait, c'est une hypophosphorémie. Donc ça, il faut vraiment faire attention et interpréter les valeurs ioniques en fonction de l'âge et non pas en fonction des normes qui sont notées pour les adultes, parce qu'elles sont faussement rassurantes. On va pouvoir retrouver des bicarbonates qui vont être bas, en lien avec l'acidose et la fuite de bicarbonate au niveau urinaire, des signes d'hémoconcentration avec une hyperprotidémie. On a parlé tout à l'heure de la présence d'une glycosurie à glycémie normale, et donc c'est cette glycémie normale qui va éliminer un diabète insulino-dépendant. On peut avoir des signes de carence de vitamine D, des phosphatases alcalines qui vont être augmentées en lien avec le rachitisme, et c'est tout ça qu'il va falloir rechercher. Donc la cystinose est la première cause de tubulopathie proximale. Tous ces signes doivent faire évoquer le diagnostic. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir des complications aiguës qui peuvent être sévères, et en particulier l'hypokaliémie, mais quelque part il y a aussi une urgence thérapeutique. Il existe un traitement spécifique de cette cystinose, et plus on va commencer tôt, plus on va décaler l'âge d'apparition de l'insuffisance rénale éventuellement de la greffe et des complications extra-rénales.
Alors, docteur Bertolet Thomas, puisqu'ici on s'intéresse aux jeunes enfants, quelles sont les spécificités de la cystinose en pédiatrie ?
Alors oui, complètement. De façon historique, en fait, la cystinose a été suivie par les néphropédiatres. On a vraiment un rôle central. Pourquoi ? Parce que on en a parlé. Cette tubulopathie proximale va finalement occuper toute la vie de l'enfant, des parents et du médecin. Il va falloir essayer de compenser les pertes hydroélectrolytiques, et finalement la croissance va être un véritable challenge pour les parents et pour les soignants. Ces enfants ont de très nombreux traitements avec des prises réparties en fait sur l'ensemble de la journée. Ils peuvent avoir des prises pratiquement toutes les deux heures. On a souvent peu de problèmes d'adhésion jusqu'à l'adolescence où en fait les choses se compliquent, et c'est vrai que ça nécessite une très forte implication des parents. On va progressivement accompagner la détérioration de la fonction rénale, puisque l'âge actuellement de besoin, ce qu'on appelle l'épuration extra-rénale, c'est-à-dire de mise en dialyse ou de greffe, est autour de 16 ans. Donc on va suivre en fait toute l'évolution et toutes les adaptations thérapeutiques. Mais la prise en charge est aussi multidisciplinaire. Pourquoi ? Parce que ces enfants vont avoir besoin d'un soutien à la fois scolaire, d'un soutien psychologique, les enfants, la fratrie, la famille, éventuellement d'une évaluation neuropsychologique. Ces enfants ont un quotient intellectuel qui est complètement normal, avec des capacités normales, mais ils peuvent présenter des troubles visio-spatiaux qui vont les gêner dans certains apprentissages, comme l'apprentissage de l'écriture, de la lecture. Donc ça, on peut les aider avec des manipulations à base de lettres. Dans certains exercices de mathématiques aussi, en géométrie, il va falloir leur donner en fait des points d'accroche pour essayer en fait d'avoir une intégration scolaire la plus normale possible. Évidemment, il va y avoir le suivi ophtalmologique. Il va falloir habituer l'enfant dès son plus jeune âge à mettre le gel. Et ça, donc, on essaie dès l'âge de les moins de 2 ans d'essayer déjà de commencer par une goutte et d'augmenter progressivement jusqu'à 4 incitations par jour. C'est vrai qu'on a peu ou pas actuellement d'autres atteintes, en particulier extra-rénales, contrairement à l'adulte où vraiment la prise en charge multidisciplinaire déborde sur d'autres spécialités adultes.
Et si on s'intéresse maintenant à la prise en charge de cette maladie, quelle prise en charge proposer pour ces jeunes enfants atteints de cystinose ?
Alors la prise en charge, on a dit, elle est multidisciplinaire avec toutes les spécialités que je vous ai décrites. C'est vrai que le néphropédiatre va va vraiment coordonner en fait toute la prise en charge. Il va être central dans le suivi du patient. On peut proposer des consultations. Hein, ce sont des enfants qui, en dehors des complications aiguës, finalement, sont très peu hospitalisés. Et on les suit à peu près tous les 3 mois, où on surveille la croissance, l'équilibre ionique avec une prise de sang. On contrôle en fait le traitement avec des dosages d'hémicystine intrale leucocytaire. Dans certains cas, chez les plus petits, on peut avoir un recours à une alimentation, à une voie entérale, surtout s'il a des difficultés à prendre le traitement, s'il a des difficultés à boire suffisamment. Et donc, dans certains cas, il peut y avoir un recours à une sonde nasogastrique ou une gastrostomie. Et puis, on les prépare progressivement à la greffe, au suivi de l'adolescence. Évidemment, on le fait en lien avec l'ophtalmologue et toute l'équipe, en fait, qu'on a décrite avec les assistantes sociales, les psychologues, le soutien scolaire.
Alors, docteur Berthollet-Thomas, on l'a évoqué, vous êtes médecin au sein du centre Néphrogone, centre de référence des maladies rares du rein. Pouvez-vous nous indiquer pourquoi est-ce qu'il est crucial d'adresser les jeunes patients chez qui on peut suspecter une maladie rare rénale à une filière de soins spécialisée ?
Alors pourquoi ? Parce qu'actuellement, en fait, on pense en France qu'il y a à peu près 150 patients qui ont une cystinose. Donc, on est dans les maladies ultra rares. On pense qu'il y a à peu près entre 70 et 80 enfants qui ont une cystinose. Donc, c'est sûr que c'est clairement une maladie complexe où il y a besoin d'avoir une expertise avec une gestion qui est difficile, en particulier en pédiatrie, la tubulopathie. On a la chance en France d'avoir une très bonne organisation des maladies rares avec à la fois des centres de référence et des centres de compétences, avec une filière de soins qui est la filière orchide. Et donc, on a un maillage territorial extrêmement important. Il y a des référents néphropédiatres dans quasiment toutes les grandes villes et dans tous les centres hospitalo-universitaires. Donc, le patient n'a pas forcément besoin de se déplacer vers un grand centre. Mais il faut qu'il arrive absolument à trouver, à proximité de son domicile, le néphropédiatre de référence qui, lui, s'il est en difficulté, pourra de toute façon faire appel à un autre médecin qui en suit un peu plus.
Dernière question, docteur Berthollet-Thomas. Lorsque ces jeunes patients atteints de cystinose grandissent, comment assurer la transition enfant-adulte de leur prise en charge ?
Alors, la transition, elle doit être double. On a dit tout à l'heure que actuellement, les patients sont greffés avant l'âge adulte, hein, autour de 16 ans. Donc, classiquement, lors du transfert en fait, du patient vers la néphrologie adulte, on fait un transfert chez un patient qui est greffé. Et actuellement, la majorité des grands centres ont tout un programme à la fois de transition et de transfert pour les patients greffés des services de néphrologie pédiatrique vers les centres adultes. Le problème là, c'est que vraiment à l'âge adulte vont apparaître progressivement des complications extra-rénales qu'il va falloir dépister, qu'il va falloir prendre en charge. Et le médecin qui va s'occuper de la greffe, le médecin néphrologue transplanteur, n'est pas forcément le médecin le mieux placé pour gérer en fait l'ensemble de ces atteintes extrarénales et coordonner finalement toute la prise en charge du patient. Donc là, finalement, le transfert, il est double. Il est à la fois vers l'équipe de greffe, mais également vers un médecin, souvent néphrologue adulte, qui est expert dans les maladies rares. Ça peut être aussi un médecin dit métabolicien, qui connaît bien la cystinose et qui va à peu près tous les ans organiser une consultation multidisciplinaire dédié en fait au patient en fonction de ses besoins, en fonction des atteintes extrarénales, pour prendre en charge en fait toute sa cystinose et adapter en fait les différentes thérapeutiques dont il a besoin et son suivi.
Eh bien, merci infiniment, docteur Berthollet-Thomas, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est la cystinose. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la compréhension de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com. où de nombreuses ressources sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur la cystinose, où on abordera cette maladie du point de vue de son diagnostic biologique cette fois. À très vite.